ahí va Alberto. Cambio de ritmo de Alberto Contador. Ahí la parte Andy final. Schleck. Como una moto, ¿eh?
Nibali, 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 gran dato.
Nibali, prova Nibali.
Grandissimo Vincenzo.
Dietro si voltano, dietro si voltano.
Lâchez les watts. Oh là là, mais c'est pas... Mais Lens, sort de ce corps.
Bonjour à tous, c'est Luca et bienvenue pour un nouvel épisode du Débrief. Aujourd'hui, on se retrouve pour le cinquième épisode de la saison, si je dis pas de bêtises. Et on va parler de la pire semaine sûrement des Ardennaises, de l'histoire des Ardennaises en termes de suspense, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a quand même eu du spectacle, mais c'est plus dans le suspense où on s'est quand même bien fait chier. Mais pour cela, je suis toujours en très bonne compagnie. Comment vas-tu aujourd'hui, Guillaume ?
Ça va. Jour de victoire strasbourgeoise à Reims, donc je suis un homme heureux. Et après, comme tu le dis, quand même déçu pour ces deux dernières semaines de vélo. Moi, je les qualifierais de deux semaines de purge. Mais après, voilà, on va débriefer dessus, il y a des circonstances, il n'y a pas de chance, il y a ci, il y a ça. Donc voilà. Et toi, quand vas-tu, Luca ?
Bah écoute, plutôt bien. À l'heure où on enregistre ça, c'est juste après Liège-Bastogne-Liège. On nous avait vendu un superbe duel entre Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. Ça devait avoir lieu, le duel devait avoir lieu, surtout vu l'état de forme des deux coureurs. Mais malheureusement, pas de triplé pour Tadej, pas de finish line même pour Tadej qui n'est pas arrivé jusqu'à Liège. Parce que tout simplement, le coureur est tombé suite à une double crevaison de Michele Onore juste devant lui. Et malheureusement... Fracture du scaphoïde pour Pogacar, 6 semaines de repos, enfin en tout cas de repos forcé en quelque sorte. Je pense qu'il arrivera à faire de l'home trainer et du Swift, mais malheureusement, on peut déjà parler d'une préparation en vue du Tour de France qui s'annonce très compliquée pour le coureur slovène.
Ouais, on en a parlé un peu en off tout à l'heure et moi j'attends quand même de voir quand ça sera vraiment officiel les semaines d'arrêt parce qu'avec les examens complémentaires peut-être qu'ils arriveront à... Je sais pas, j'ai toujours un petit espoir où ils arriveront à trouver une solution pour qu'ils puissent s'entraîner mais en vrai à ce niveau-là, si... ouais t'as peut-être raison quand même, ça risque peut-être d'être un peu compliqué, on verra.
Il y aura... l'immobilisation en tout cas du poignet, ça y aura pas de doute, je pense qu'il arrivera quand même un peu à s'entraîner, mais c'est sûr que par rapport à Vingegaard qui arrivera lui à faire sa préparation sans imprévu, tout normalement sans imprévu, mais à voir comment ça va se passer au niveau de la rééducation. Après sa carrière, il est encore très jeune, il a encore beaucoup de choses à faire devant lui, est-ce que ça vaut quand même pas le coup? De même s'il faut de tirer une croix sur ce Tour de France et de faire une rééducation propre pour que ça ne l'embête pas dans les années à venir. Parce qu'on sait que quand même le scaphoïde, ça reste quand même une blessure qui est chiante. Par exemple cette année il ne fait pas de Tour de France où il fait l'impasse pour préparer par exemple les mondiaux qui auront lieu mi-août. Ou pourquoi pas même la Vuelta ou la fin de saison. Pourquoi pas.
Vu qu'il n'a pas gagné la Vuelta, allez. Pourquoi pas juste bien s'en remettre de cette blessure et direction la Vuelta, comme ça, à la fin de sa carrière, et il pourra dire, moi j'ai gagné les trois grands tours, bon il n'a pas encore gagné le Giro, mais s'il doit faire la Vuelta une année, c'est peut-être celle-ci du coup, due à cette blessure.
Bah écoute, je suis plutôt d'accord avec toi, à voir ce que va nous faire le bon Tadej en tout cas, sur cette fin de saison, parce qu'elle est encore très longue et il aura le temps de revenir à son meilleur état, tout simplement. Pour faire un petit flashback, on revient à dimanche dernier, l'Amstel, une très belle Amstel quand même, parce qu'il y a eu du spectacle, dans le sens où l'Amstel a été marquée par une échappée sortie à 80 km de l'arrivée, avec de jolis noms, dont Pogacar, le peloton qui aurait pu rentrer à un moment donné, on a vraiment cru que ça allait le faire, mais malheureusement ça a été désorganisé par une lourde chute, vraiment une chute massive, qui a mis quasiment out tout le peloton. Et comme quoi, franchement, quand t'as les jambes, tout est plus simple parce qu'il suffit d'être à l'avant. Ça permet aussi d'éviter ce genre d'embûche. Et bah oui, bah, quand t'as une jambe au-dessus de tout le monde comme Pogacar, bah, c'est tout de suite plus facile, on va dire, pour remporter les courses. Mais il a mis une grosse menace et il a réussi à sortir de sa roue dans un premier temps Pidcock, puis Benelli.
Bah et franchement, Benelli, on pourrait s'arrêter deux minutes sur lui parce que c'est pas le genre de coureur que j'ai vu arriver. Et franchement, il nous a fait. Il est dans le top 3 des hommes de ce triptyque des Ardennaises, tout simplement.
Ouais, parce qu'il a fait deuxième de la Flèche Brabançonne, deuxième de l'Amstel, quatrième de Liège-Bastogne-Liège. C'est tout simplement une magnifique campagne ardennaise pour l'Irlandais qui sort presque de nulle part, classe 2000. Et on va maintenant suivre de près son évolution et voir jusqu'où il peut aller dans la bonne dynamique de toute la formation EF depuis le début de saison.
Tout à fait.
On a fait l'Amstel, on va rapidement s'attarder sur la Flèche parce qu'il n'y a pas non plus 50 millions de choses qui se sont passées. Encore une fois, course de côte, on s'est dit pourquoi pas, vu l'état de forme de Pogacar, on aurait pu penser à ce qu'il puisse anticiper les débats et partir même à un tour de l'arrivée. Mais Pogacar a fait comme tout le monde l'a fait par le passé quasiment, une course de côte, il l'a remporté avec la manière et tout simplement 2 sur 3 et malheureusement, il, comme on l'a vu juste après, il n'a pas pu conclure par la suite sur Liège-Bastogne-Liège.
Ouais, juste pour revenir sur la Flèche Wallonne, bon, c'est une course, j'aime beaucoup son finish, mais le problème c'est que les 180 km avant, voilà quoi, et c'est pas possible de sortir parce que les équipes roulent à fond et je sais pas, enfin faut pas bouger l'arrivée finale, c'est clair, mais est-ce qu'il y a moyen de trouver autre chose pour enfin c'est compliqué, mais le parcours ça fait 10 ans que c'est la même chose quoi, 15 ans même, donc c'est une belle course, mais voilà, t'allumes ta télé à 5 km de l'arrivée et t'as rien loupé quoi.
Je suis pas d'accord avec toi, hein. C'est, comme dit là pour le coup, c'est qu'il y a la place de faire des choses parce que la côte juste avant le mur de Huy, elle est à 10 bornes de l'arrivée. Si les coureurs voulaient vraiment faire la différence, ils l'auraient fait. Mais encore une fois, c'est les coureurs qui font la course. Il y a quand même le parcours qui est adapté pour. Même par exemple, chez les filles, c'est sorti à un tour de l'arrivée dans un premier temps. Là, chez les hommes, il n'y a pas eu d'attaque, on va dire, ou quoi que ce soit. Donc non, vraiment... ça a été une course d'attente, encore une fois, et des outsiders qui auraient pu sortir, pourquoi pas Pogacar, à une côte de l'arrivée, on va dire dans un grand jour, ils auraient pu le faire. Et là, il n'y avait même pas eu d'essai, donc un peu décevant.
T'as pas tort. Après, le souci, c'est que dans le mur de Huy, il faut combien de secondes d'avance pour espérer gagner face... à quelqu'un qui fait tout en punch, parce que 30 secondes au pied du mur, c'est même pas assez au final. Mais bon, t'as pas tort, c'est vrai que le parcours peut s'y prêter, et c'est vrai, c'est la meilleure phrase, t'as raison, les coureurs font la course. Et après, comme tu dis, petit tour sur Liège-Bastogne-Liège. Comme dit, on s'attendait à un gros duel Remco Pogacar, et malheureusement, la chute de Poggi a empêché ce magnifique duel qui allait se proposer à nous. Et moi, je m'étais dit au début, Remco, il revient d'un stage. Peut-être qu'il sera pas non plus au top de sa forme. Donc, du coup, peut-être que ça allait ouvrir la porte à d'autres coureurs. Mais que nenni. On a eu le droit à un rouleau compresseur de la part de la Quick-Step qui montre que maintenant, son collectif se tourne autour de Remco. Bis repetita avec le meilleur champion du monde ce coup-ci. Donc, c'est magnifique. Et en plus, on a eu le droit au cuissard blanc. Attention. Du coup, victoire avec la manière et maintenant direction le Giro pour le Belge. Et pour une fois, il faut visiter le collectif global du Wolfpack sur Liège parce que même si Remco était une jambe au-dessus, sans son équipe, peut-être pas de victoire. Et franchement, c'est une victoire qui va venir sauver la saison des classiques de ce bon vieux Pat Lefebvre. Hein. Et on a entendu parler d'une rumeur de Julian chez Israël pour 2024. Mauvais signe si c'est le cas. Moi, j'ai pas envie d'y croire, donc je me bouche les oreilles, voilà. Faites ce que vous voulez également.
Ouais, ça serait quand même assez décevant, en tout cas de la part de Julian, d'aller là-bas. Après, je serais pas non plus totalement surpris, parce que il a déjà, en quelque sorte, marqué le cyclisme de son empreinte. Donc, en soi, il a plus rien à prouver. Mais, je sais pas, je me dis qu'il a, on va dire, il reste en quelque sorte encore assez jeune, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, il pourrait encore continue à gagner, au moins à lever les bras sur certaines courses, parce qu'on sent que là, pour le moment, c'est encore compliqué. Après, là, il revient de blessure, d'une blessure au genou. Donc là, par exemple, sur le Liège-Bastogne-Liège, il a été utilisé avant même des Ilan Van Wilder et des Peter Seri. Donc c'est sûr que ça fait un peu mal pour l'ego d'un ancien champion du monde. Mais il a pu aider Remco à faire cette course d'usure sur Liège et à remporter ce magnifique succès. Et pour finir sur Remco, comme tu l'as dit, qui revenait d'un stage d'entraînement en préparation du Giro, je l'ai senti quand même un peu moins tranchant, en tout cas pour son attaque, que l'an passé sur Liège. Après, là, c'était aussi dû un peu à la météo, parce que encore une fois, il a patiné lorsqu'il a voulu attaquer dans la redoute. Mais non, de très belles choses encore de la part de Remco, et encore une fois, ça... Un peu déçu forcément de ne pas avoir vu ce magnifique duel entre Pogacar et Remco, parce que là il aurait pu avoir des feux d'artifice depuis le kilomètre 80 quoi.
Et en vrai c'est un duel qu'on voit trop peu entre deux cadors du peloton pour l'instant, donc leur route va forcément finir par se croiser. Remco est destiné à jouer le général sur le tour d'ici peu de temps je pense, peut-être d'ici l'an prochain, ça serait une bonne idée. Et encore ça dépendra de son plan de course vis-à-vis des JO peut-être, mais c'est vrai que c'est un duel qu'on voit trop peu, alors que pourtant entre les deux ça pourrait être incroyable dans les années à venir en tout cas.
Petit passage aussi sur Pidcock, qui a été très bon sur ses Ardennaises, super bon même, mais on est obligé d'être forcément un peu déçu aussi dans sa gestion de l'effort, notamment sur l'Amstel et Liège, où malheureusement il a craqué deux fois. Peut-être pas forcément à la pédale, parce qu'on l'a vu les deux fois après où il était lâché, il a énormément mangé. Ouais. Donc c'était peut-être dû à des efforts, comme dit, de gestion. Et il n'a pas assez bouffé, tout simplement, quoi.
Bah, il en a parlé en interview. Alors, est-ce qu'il a... Je pense pas qu'il ait fait l'erreur plusieurs fois quand même. C'est peut-être plus un réflexe de manger dès que ça va pas. Mais il a expliqué que... Il avait un problème avec en course, en fin de distance. Donc, c'est quand même assez étrange. Parce que ouais, comme dit, c'est forcément quand tu pètes comme ça, ton premier réflexe c'est de manger. Mais est-ce qu'il réitérerait deux fois la même erreur dans la semaine ? Moi je trouverais ça un peu pas très professionnel quoi, on peut dire. Ensuite on va parler d'un sujet qui fâche peut-être un petit peu. Groupama, déception totale, déception sur la gestion des maladies pour la Groupama. On a déjà eu le cas avec Thibaut Pinot par le passé, et c'est au tour de Goudu d'en subir les conséquences. Trois courses, trois abandons à cause de douleurs aux bronches. C'est jamais une bonne idée de forcer à ce point-là. J'espère que ça va pas lui porter préjudice pour la suite, même si là, il va rentrer dans une période où il y aura un peu moins de compétition jusqu'au mois de juin.
Moi, ce qui m'a fait rire sur le cas Goudu, c'est notamment Philippe Gilbert sur Eurosport qui a dit... et même Audrey Cordon-Rego qui l'a aussi dit sur l'interview de départ de Gaudu, qu'il avait tout simplement une tête à plutôt faire une sieste de 6 heures que tout simplement un monument de 6 heures. Et ça prouve quand même l'avis quand même de deux experts du cyclisme.
T'as raison.
Bah tout simplement encore une fois quoi, enfin putain, mais laissez-le pioncer, laissez-le se récupérer et se remettre en pleine forme en vue des prochains objectifs quoi. Parce que là pareil, ça sert à quoi de le mettre au départ alors qu'il y a de très bons coureurs qui sont laissés sur le carreau dans l'effectif de la Groupama. Parce que tout simplement, ouais. Ils veulent quand même persister en se disant « et pourquoi pas ?» avec David Gaudu qui « pourquoi pas ?» Mais le problème, c'est que sur ce genre de maladie, il n'y a pas non plus de miracle. Et le problème, c'est que, encore une fois, comparé aux autres équipes, les autres équipes laissent leurs coureurs se reposer.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Là, j'allais dire pourquoi pas proposer un Romain Grégoire à sa place, mais je suis pas sûr qu'il était bien non plus Romain Grégoire, parce que je vois qu'il était DNF sur l'Amstel. Donc, c'est une maladie chez Groupama, mais ils ont décidé de mettre leur leader sur les classiques alors que le mec est malade. Enfin bref, vraiment plein de questions. Et on peut aussi parler de Valentin Madouas, qui était malchanceux sur l'Amstel et un contretemps sur Liège, mais il décroche quand même une belle cinquième place devant l'autre Frenchie Guillaume Martin. Donc bon, Madouas qui sauve les meubles, mais bon, comme dit pour l'équipe World Tour, on attend quand même plus de victoires. Et après, on enchaîne un petit coup sur Cofidis, qui fait de très bonnes performances également, et qui continue dans sa lancée du début de saison. Une 10e place sur l'Amstel de Zinglet, qui a très bien couru, puisqu'il était dans le bon coup sur l'échappée qui s'est formée à 80 km, avec notamment Poggi. Et on a eu le droit à une 6e place de Victor Lafay sur la flèche wallonne. Et Guigui Martin, donc comme je viens de le dire, qui est 6e sur Liège, donc des résultats corrects.
Pour finir sur les Ardennaises, on a eu aussi le droit à la troisième place de Buitrago sur Liège-Bastogne-Liège. Premier Colombien de l'histoire à monter sur le podium de la classique, de la doyenne. Et il sort d'un très bon Tour des Alpes. Donc ça va être une carte très très intéressante à suivre sur le prochain Giro. Et bien sûr, Demi Vollering, parce qu'il faut quand même souligner aussi ce qu'elle a fait, le triplé pour elle, ce que n'a pas réalisé du coup Tadej Pogacar, mais la course de la SD Works, elle l'a fait, encore une fois, avec la manière. Sur Liège, elle a battu au sprint Elisa Longoborghini, une course assez intelligente de sa part, et tout simplement, elle montre encore une fois qu'elle est actuellement la meilleure coureuse du peloton. Et comme on en a un peu discuté déjà, malheureusement, on doit attendre encore un peu avant de voir un duel tout simplement entre Remco et Pogacar. On l'attend depuis très longtemps et on espère qu'il arrivera ce moment-là parce qu'on a hâte, on a hâte.
Tout à fait, encore un peu de patience. On va débriefer très rapidement aussi du Tour des Alpes. On va faire un petit détour. Belle domination d'Ineos Aitao qui continue sa montée en puissance cette année et qui revient vraiment bien. Une très belle surprise. Est-ce que ça peut être l'homme capable de déjouer le duel Roglic-Evenepoel? Moi, je pense personnellement qu'il sera un ton en dessous. Et ensuite, on a Félix Gall qui a montré de belles choses encore sur son tour national. Encore une fois, en forme trop tôt par rapport au Giro, son véritable objectif, on verra. On n'espère pas, parce que ça peut être une très belle carte pour AG2R Citroën. Aussi bien pour une victoire d'étape qu'un top 10 au général, pourquoi pas. Et enfin, on a le droit à un formidable numéro 2, Kamna, aussi, qui a remporté Tapren en solitaire en faisant un effort XXL dans l'ascension finale, qui entre lui et Vlasov pour le leadership sur le Giro. Ensuite, on a eu le droit à une solide équipe IF, notamment avec Carty, qui est second du général, et Cepeda, qui était H24 à l'attaque, et on a eu le droit à un doublé Carr Stenhauser sur la dernière étape. Donc, en vrai, IF, très propre. On n'en parle pas beaucoup non plus, mais ils sont en train de faire une très belle saison.
Ouais, le bon John Wouters a trouvé enfin la potion magique. Puisque bon, on va dire EF marche un peu sur l'eau en ce début de saison avec Paulès qui a fait des performances XXL. Malheureusement, il a été ultra malchanceux sur les Ardennaises parce que je pense que s'il chutait pas à l'Amstel, il y avait moyen peut-être qu'il fasse quelque chose pour essayer de jouer le podium, c'est sûr.
Podium,
pourquoi
quoi.
Pas même ouais, concurrencer Pogacar, c'est sûr que c'est compliqué quoi, mais bon.
Ouais, on a senti dans tes paroles que tu voulais le dire et d'un coup tu dis ouais, peut-être c'était peut-être un peu gros.
Ouais, voilà, extraterrestre quoi. Et on termine ce débrief en gardant un œil aussi, en tout cas je te le conseille, sur Paul Sexas, l'une des pépites du cyclisme français, classe 2006, qui sort des rangs cadets, qui a fait sa première saison chez les juniors. Il a déjà très bien performé sur la saison de cyclocross. C'est un coureur de Villefranche, on l'appelle Monsieur Trois Poumons, et tout simplement il a effectué sa première grosse course internationale chez les juniors en Italie. Il y avait une course par étape de 3 étapes, dont 2 semi-étapes avec un chrono vendredi et une genre de Strade Bianche le samedi. Il a fait un podium, si je dis pas de bêtises, et un top 5 sur la classique ce dimanche, qui était la version Strade Bianche version junior. Et il a devancé par exemple un Léo Bisio et un Nordhagen. Et tout simplement, il finit le meilleur des non-échappés. Donc garde un œil sur le petit Paul Sexas, parce que c'est lui le futur du cyclisme français, tout simplement.
Dans les 5 ans ou les 6 ans qui suivront, on ressortira cet extrait.
Ouais, t'as pas besoin d'attendre aussi longtemps. Hein. Dans 2 ans, il est chez les pros, il a 19 ans, il commence déjà à voler. Hein.
Ah oui, pardon. Oui. T'as raison. Eh ben écoute, Luca, merci. On devrait faire une rubrique, un podcast, une pépite avec Luca.
Bon, allez, on va maintenant se diriger vers le Tour de Romandie qui va bientôt débuter. Le Giro qui avance et qui arrive à très très grands pas. Et tout simplement, on vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.
Ciao.